Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, on est ensemble jusqu'à 9h, temps universel, avec dans 30 minutes vos réactions sur l'indemnisation des victimes des violences politiques au Sénégal lors des trois dernières années de la présidence Macky Sall, entre 2021 et 2024. Le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre, Ousmane Sonko, ont promis de s'attaquer à ce dossier. Une enveloppe de 5 milliards de francs CFA, soit plus de 7,5 millions d'euros est prévu. Une commission chargée des réparations doit encore être mise en place, mais d'ores et déjà, les autorités ont annoncé une première aide financière, 10 millions de francs CFA, 15 300 euros pour chaque famille endeuillée, ou encore 500 000 francs CFA, 770 euros pour toutes les personnes arrêtées puis emprisonnées lors de ces événements. Alors, que vous inspire ce premier geste du gouvernement et quelles doivent être les prochaines étapes du processus d'indemnisation? Le sujet fait débat, fait même polémique au Sénégal. On en parle donc ce matin sur RFI, 33 9 693 693 70. Et vos commentaires, ils sont très nombreux sur nos réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp. J'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction de RFI. Bonjour Djibi.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Et merci de nous appeler de Kaolack au Sénégal. Vous avez des questions sur l'Allemagne, après la très forte mobilisation de dimanche contre l'extrême droite.
Oui, bien sûr Juan, parce que nous avons constaté qu'à quelques semaines des élections, nous avons vu des dizaines de manifestants au défilé pour dénoncer le rapprochement entre la droite et l'extrême droite.
Oui, des dizaines de milliers, hein. Ils étaient 160 000 selon la police.
Exactement, et je voudrais qu'on m'explique le rapprochement entre ces deux formations politiques.
Ouais, 160 000 personnes selon la police, 250 000 selon les organisateurs. Bonjour Pascal Thibault.
Oui, bonjour Juan, bonjour Djibi.
Correspondant de RFI à Berlin, c'est vrai que la mobilisation a été massive dimanche dans les rues de Berlin pour dire non au rapprochement entre la CDU et l'AFD. Comment expliquer ce rapprochement inédit? C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un parti de la classe politique allemande décide de faire alliance avec l'extrême droite.
Alors, il faut faire attention aux mots. Il n'y a pas de rapprochement, il n'y a pas d'alliance. Hier encore, lors du congrès de la CDU, ici à Berlin, le président du parti et candidat à la chancellerie, Friedrich Merz, a répété, il n'y a jamais eu d'alliance, il n'y aura jamais d'alliance avec ce parti qui est à l'opposé de tout ce que nous représentons, qu'il s'agit de la relation transatlantique ou bien de l'adhésion à l'Europe. Il y a eu, la semaine dernière, suite à une attaque au couteau commise par un migrant il y a deux semaines, la volonté de la CDU de faire adopter avant les élections des textes sur plus durs sur la politique migratoire et dans l'urgence, la CDU estimait que peu importe qui votait pour, le fait que les mauvaises personnes votaient pour un bon texte ne rendait pas ce texte mauvais. C'était l'argumentaire officiel. Mais ça a donc provoqué une levée de bouclier en raison du coup de canif contre le cordon sanitaire qui entoure depuis la création de ce parti, l'AFD, cette force d'extrême droite. Voilà où on en est aujourd'hui, mais il n'y aura pas d'alliance après les élections du 23 février entre les chrétiens démocrates et l'AFD.
Levé de bouclier, disiez-vous à l'instant, Pascal Thibault, qui a même fait réagir Angela Merkel, l'ancienne chancelière, qui est sortie de sa réserve hein, pour dire que ce qu'avait fait le patron de la CDU était une erreur, c'est-à-dire s'appuyer sur l'extrême droite pour faire passer des textes concernant l'immigration. Pascal Thibault, c'est vrai que vu de l'extérieur, on a comme l'impression que effectivement les deux parties ont essayé de se rapprocher sur cette question migratoire qui est le sujet phare hein, de la campagne électorale en vue des élections législatives. Djibi, vous avez une dernière question, allez-y, posez-la.
Oui, j'ai une deuxième question. Pourrait-on voir émerger une nouvelle alliance pour empêcher la victoire de la droite et de l'extrême droite?
Pascal Thibault, à Berlin.
Alors, encore une fois, comme il n'y a pas d'alliance avant les élections et après les élections à attendre entre la droite et l'extrême droite, il n'y aura pas forcément une contre-alliance en quelque sorte. Il y a des manifestations qui vont se poursuivre parce que, hormis celles que vous avez évoquées de Berlin massive dimanche, il y en a eu de très nombreuses
samedi,
à travers
veille.
Toute l'Allemagne, et d'autres auront encore lieu. Et il y a des critiques qui se poursuivent et des attaques dorénavant également des campagnes qui ont été lancées par les Verts et les sociaux-démocrates contre cette décision des chrétiens-démocrates d'accepter les voix de l'extrême droite. En revanche, au soir des élections du 23 février, on s'achemine très probablement, puisque les chrétiens-démocrates sont en tête dans les sondages, vers une alliance entre ce parti et les sociaux-démocrates du tenant du titre Olaf Scholz, sauf énorme surprise.
L'AFD qui, je le précise, arrive deuxième dans les intentions de vote avec un peu plus de 20%. C'est quand même deux fois plus qu'il y a quatre ans lors des précédentes élections. Merci infiniment, Pascal Thibault. JB, est-ce que vous comprenez un peu mieux le contexte politique en ce moment en Allemagne ?
Absolument, merci, c'est bien reçu.
Eh bien, tant mieux.
Tant mieux.
Bonne journée à Kaolack, merci Pascal Thibault, bonne journée à Berlin, 9h16 à Paris. D'autres questions à la rédaction de RFI. On va parler du couple présidentiel au Nicaragua. Rachid, bonjour.
Bonjour, l'incontournable Juan Gomez.
Ah, merci de vos encouragements. Vous êtes en Guinée, soyez le bienvenu, on vous écoute.
Merci Juan Gomez. Au Nicaragua, le Parlement a validé une réforme de la Constitution donnant les pleins pouvoirs à Daniel Ortega et sa femme. Mm-hmm. Quelles sont les circonstances qui ont permis cette réforme? Avec ce nouveau pouvoir, quelles seront les premières mesures du couple Ortega?
Alors, Daniel Ortega et son épouse Rosario Murillo ont effectivement désormais les pleins pouvoirs. Lui en tant que président de la République et madame en tant que coprésidente du Nicaragua. Elle était jusqu'à présent la vice-présidente du pays. Bonjour Asbel Lopez.
Bonjour Juan.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste à la rédaction en espagnol de RFI. Le couple Ortega obtient donc les pleins pouvoirs grâce à cette réforme constitutionnelle.
Oui, tout à fait. Ortega et Murillo consolident ainsi leurs pouvoirs. Absolu. Ils ont désormais une emprise totale sur les organes de l'État. Selon le texte approuvé par le Parlement, tous deux seront désignés lors des élections organisées tous les 6 ans contre 5 auparavant. Ortega a réussi à imposer ce choix au Parlement grâce à la domination de son parti, le FSLN, Frente Sandinista de Liberación Nacional. Oui. Murillo est membre de cette ancienne guérilla depuis la fin des années 60. Elle se présente aussi comme poétesse, mais elle est surtout connue pour ses envolées ésotériques.
Oui, donc le fait qu'elle devienne coprésidente, finalement, ça n'a surpris personne.
Et non, le couple présidentiel contrôle le pays depuis plusieurs années, mais leur pouvoir s'est encore renforcé depuis 2018. Cette année-là, les manifestations contre le régime ont fait plusieurs centaines de morts, 320 selon les Nations Unies. C'est à ce moment-là que le pouvoir a commencé à resserrer encore plus la vis. L'opposition n'a pas complètement disparu, mais il est devenu de plus en plus difficile de contester. Participer à une manifestation, par exemple, c'est prendre de gros risques.
Alors, en novembre prochain, Daniel Ortega aura 80 ans. Asbel Lopez, faut-il y voir un lien, finalement, entre son âge avancé et cette réforme constitutionnelle?
Oui, très probablement. Depuis les dernières élections, fin 2021, la question de la succession d'Ortega devient de plus en plus brûlante. La réforme de la Constitution du Nicaragua prépare non seulement cette succession, mais elle met aussi en place un mécanisme pour l'organiser. Si Ortega quitte le pouvoir, Murillo, 73 ans, la toute nouvelle coprésidenta, prendra sans doute sa place.
Alors Rachid nous demandait quelles seront les premières mesures du couple Ortega maintenant qu'ils ont les pleins pouvoirs.
Et vous l'aurez compris, ce ne seront pas des mesures en faveur d'une transition vers une véritable démocratie. Il faut s'attendre à masse de l'homisme, c'est-à-dire encore la même chose. Concentration du pouvoir et répression accrue des voix dissidentes. En tant que coprésidente, Murillo pourra participer plus activement aux décisions politiques et administratives. Elle va très probablement renforcer aussi son emprise sur le parti qu'elle a déjà transformé en un instrument au service de son projet familial. Et puis, elle continuera à légitimer le régime auprès de la population en utilisant des discours émotionnels qui jouent sur le nationalisme et la révolution sandiniste. De cette façon, elle cherche à obtenir le soutien de la population tout en démantelant progressivement les institutions démocratiques. Et juste un détail, Juan, qui a son importance, la réforme définit désormais le pays comme un État révolutionnaire et socialiste. Le Nicaragua est l'un des pays de ces pays de l'Amérique latine socialiste qui ont emprunté une voie à sens unique.
Une voie à sens unique, en quelques mots, Asbel Lopez, ça signifie quoi?
Une fois installé dans le socialisme ou le communisme, il n'y a plus de retour en arrière. Le cas emblématique, c'est bien sûr Cuba.
Oui.
Mais dans la liste, vous avez aussi le Venezuela. Et je vous donne un exemple. En novembre dernier, au Nicaragua, le régime a mis en place une police bénévole, policia voluntaria. Ce sont des civils favorables au gouvernement qui peuvent participer à des missions de sécurité publique. Mmh. En d'autres termes, des groupes paramilitaires. Eh bien, c'est la version des colectivos chavistas au Venezuela. Donc, que ce soit au Nicaragua ou au Venezuela, leur tâche est la même, défendre le régime en utilisant des tactiques violentes pour intimider les opposants. Et si vous ajoutez à ce pays, paysage politique en ruine qu'est le Nicaragua, le soutien de la Russie et de la Chine, vous obtenez un pays qui, très difficilement, prendra le chemin de retour vers la démocratie. Ils ont pris un aller simple.
Un aller simple. Rachid, a-t-on répondu à vos questions?
Merci Juan, depuis la ville Saint-Elazo-Martal, je vous en prie.
Eh bien, merci. Bonne journée à vous, merci de vos encouragements. Asbel Lopez, à très vite, journaliste à la rédaction en espagnol de RFI. Vous nous appelez 339 693 693 70, on prend le temps tous les matins à cette heure-ci de répondre à vos questions pour vous permettre de mieux comprendre tous les sujets que vous entendez dans nos différents journaux, des sujets que vous pouvez également lire sur le site RFI.fr et la rédaction se mobilise ici à Paris, mais aussi nos envoyés spéciaux, nos correspondants, pour vous répondre en direct. Antoine Grenier, du service des sports de RFI, nous a rejoint. Bonjour Antoine.
Bonjour Juan, bonjour tout le monde.
Et une fois n'est pas coutume, on va parler basket.
Temps à autre, c'est bien, ça change.
Arrive. Surtout quand il y a un transfert qui prend de court le milieu et surtout la planète NBA. Bonjour Abdel.
Bonjour Juan, bonjour Antoine.
Bonjour. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, on vous écoute.
Exactement. Aux États-Unis, la star de la NBA, Luka Doncic, a été transféré de Dallas Mavericks aux Lakers de Los Angeles en échange du pivot Anthony Davis. Comment expliquer la décision de Dallas alors que Doncic est peut-être le futur meilleur joueur de la Ligue?
Alors,
comment est-il possible que ces échanges se fassent sans l'accord de Destar?
Alors, on va essayer de comprendre, Antoine Grenier. J'avoue mon incompétence. Hein, NBA, je ne connais pas. Ce que je sais, c'est que Dallas s'est séparé de sa star. Et du coup, ça a provoqué comme un séisme dans le milieu du basket américain.
Oui, parce que si vous comparez avec le football, c'est un peu comme si Kylian Mbappé était échangé avec Mo Salah. Enfin, c'est quelque chose de cette envergure-là, si vous voulez. On imagine à peine le cataclysme qui a provoqué cette annonce, qui a été restée secrète en plus, qui a été vraiment qui est tombée comme un couperet. Alors comment on explique ce mouvement? En fait, depuis la finale perdue par les Mavericks contre Boston la saison passée, il y a certaines interrogations qui sont apparues autour de l'investissement, du leadership et même d'une certaine manière de l'hygiène de vie de Luka Doncic, qui a été pas mal blessé là depuis le début de saison. Et puis son contrat arrivait à échéance en 2026, et puis là il y avait deux solutions: soit il décidait de ne pas prolonger et il partait comme free agent et il était libre de s'engager avec n'importe quelle autre franchise sans contrepartie pour Dallas, soit les Mavericks lui proposaient un nouveau contrat. Et là, ça risquait de leur coûter très très cher, parce qu'il y avait la possibilité pour Doncic d'obtenir un contrat qu'on appelle Supermax. C'est le contrat le plus haut possible dans le salary cap de la NBA, qui correspond à 345 millions de dollars sur 5 ans.
Tout de même.
Donc c'était un petit peu difficile de se projeter avec un joueur qui était beaucoup blessé, d'envisager de lui donner autant d'argent. Et notamment, le propriétaire, le milliardaire Mark Cuban, a tout passé à Luka Doncic. Mais le general manager, le manager général de la franchise, lui, n'était pas tellement en accord avec ça. Il était beaucoup moins patient et c'est lui qui a décroché son téléphone pour proposer cet échange aux Lakers. Il y a Luka Doncic, mais il y a aussi Maxi Kleber, Mark Riff Morris, échangé contre Anthony Davis, Max Christie, qui est un jeune joueur, et un futur choix de draft des Lakers en faveur de Dallas.
En tout cas, si j'ai bien compris, et Abdel, finalement, pose une question qui, effectivement, paraît surprenante. Les deux joueurs n'ont pas eu leur mot à dire dans ce transfert.
Absolument. Mais ça, c'est une particularité de la NBA. Il faut oublier un peu tout ce qu'on connaît du sport et du foot, notamment en Europe, avec ses régulations et le reste. En fait, la NBA, c'est une entité basket qui est toute puissante, encore plus puissante que la Fédération internationale de basket elle-même. Elle fixe ses propres règles et l'organisation en elle-même est plus puissante que ses propres acteurs, que les joueurs. En foot, la FIFA ou l'UEFA ont leur mot à dire. Là, en NBA, de par le système de franchise et le fait qu'il s'agit d'une ligue fermée, le pouvoir n'est pas entre les mains des joueurs ou de leurs agents. Comme on peut le voir dans le foot, ceux qui ont les manettes, c'est les propriétaires et les fameux general managers, les GM. Ils font leurs affaires entre eux et ils gèrent les trades. Ça aussi, c'est une spécificité. C'est pas vraiment des transferts. Ce sont des échanges et les joueurs n'ont pas leur mot à dire parce que, mis à part une infime minorité d'entre eux, comme LeBron James par exemple, ou Victor Wembanyama qui ont pu négocier des clauses considérant qu'ils étaient intransférables, et ben c'est dans leur contrat. Ils ont une clause qui fait qu'on peut leur imposer de changer de franchise si jamais les dirigeants se sont mis d'accord. On en parle peu parce que énormément de joueurs NBA ont dû déménager comme ça du jour au lendemain, laisser leur famille pour plusieurs mois en attendant qu'elles les rejoignent parce qu'ils avaient été tradés. Là, on en parle parce que c'est Luka Doncic qui est concerné, mais c'est le quotidien de nombreux joueurs tout au long de la saison en NBA.
Abdel, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui.
Merci. Une dernière, je regarde la pendule, malheureusement il reste peu de temps et je voudrais qu'on prenne un dernier auditeur qui patiente depuis quelques minutes au standard. Vous savez quoi Abdel, on essaye de vous répondre hors antenne, d'accord ?
Ça marche,
bon, super, merci de votre compréhension. Bon, Antoine Grenier, vous avez du travail encore
en régie.
En régie, voilà. Non, mais je pense à Abdelaziz qui patiente au standard depuis un petit moment. Bonjour Abdelaziz.
Bonjour Anne Gomez, bonjour aux auditeurs de la RFI.
À Parakou, au Bénin, vous avez des questions sur la situation sécuritaire au Niger?
Tout à fait. J'ai appris par RFI que des ressortissants chinois ont était de nouveau enlevé à côté d'un site pétrolier au Niger. Ma question est, quelles sont les motivations derrière ces enlèvements et que sait-on du profit de ces océans ?
Ah, bonne question. Ce sont effectivement deux employés chinois qui travaillent pour la China National Petroleum Corporation qui ont été enlevés samedi dans l'est du pays. Bonjour Sedi Kaba.
Bonjour Ron, bonjour à votre auditeur.
Merci d'être avec nous, vous êtes le président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel. Que savez-vous de cet enlèvement ?
Oui, l'enlèvement s'est produit au cours d'une escorte, parce que entre le puits pétrolier de Ogadem et la raffinerie qui est à Zinder, il y a 5 stations. Et chaque fois qu'on se déplace d'une station à une autre, il y a une escorte qui accompagne le personnel de la CNPC qui se déplace. Mmh. Et en l'occurrence, lors du déplacement d'une station à une autre, il y a eu cette attaque contre l'escorte. Les deux gardes de l'escorte ont été tués. Et finalement, c'est un seul ressortissant chinois qui a été enlevé. Ah. Un ou
d'accord. Que sait-on des assaillants qui se cachent derrière cette attaque?
Il y a deux mouvements qui sont actifs dans la région. Déjà, par élimination, Boko Haram n'est pas présent dans la région. Il y a le Front patriotique de libération qui est dans la région et il y a le Front patriotique pour la justice qui détient déjà le préfet de Bilma, une localité de la région, et 5 gardes républicains qu'ils avaient enlevés en juin 2024. Donc c'est probablement en l'absence d'une revendication formelle le Front patriotique pour la justice qui a pu porter cette opération au cours de laquelle ce ressortissant chinois a été enlevé.
Et les motivations, elles sont d'ordre financier ?
Oui, il y a, puisque vous savez, le Niger est passé de 30 000 barils par jour à 120 000 barils par jour, et les populations de la région ne voient pas les retombées réelles de cette production pétrolière. Donc, ce mouvement porte en réalité une revendication d'un meilleur partage de revenus pétroliers, à côté aussi de quelques revendications d'ordre politique, le retour de la démocratie, la libération du président Bazoum.
Ouais, en tout cas, ce n'est pas la première fois que des ressortissants chinois sont la cible d'enlèvement dans cette région. Merci infiniment, Sedi Kaba, d'avoir pris quelques instants ce matin pour répondre à Abdelaziz Aparakou. Sedi Kaba, président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel. Les explications sont à réécouter à tout moment, évidemment, sur l'application RFI Pure Radio. Restez avec nous. Dans 10 minutes, nous parlerons du Sénégal et cet engagement des autorités Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko qui veulent indemniser les victimes des violences politiques des trois dernières années du régime de Macky Sall. Alors, il va falloir encore patienter le temps que la commission chargée des réparations soit mise en place, mais d'ores et déjà, les familles des victimes et certaines victimes vont recevoir une aide financière. Que vous inspire ce premier geste du gouvernement? On en parle tout